Tout un monde.
Marie-Hélène Freixé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir à tous. Ils sont 350 millions de personnes sur notre planète. Plus de 5% de la population mondiale. On les appelle peuples autochtones, tribus, minorités. Pas très facile de regrouper sous un terme pertinent autant de diversité, nichée souvent dans des endroits du monde, peu accessible. Et c'est à travers leurs visages et surtout leurs gestes, gestes quotidiens de forgerons, de pêcheurs, de guérisseurs, que la photographe Anne de Vandière témoigne pour ces peuples menacés que les appétits financiers, les impératifs de la croissance semblent condamnés à disparaître. Un plaidoyer relayé avec force par le Musée de l'Homme, nouvelle version, et notamment par l'un de ses directeurs, Serge Bahuchet. Tous deux sont avec nous pendant la demi-heure qui suit. Bonjour Anne de Vandière.
Bonjour.
Vous êtes photographe, vous parcourez le monde depuis 7 ou 8 ans à la rencontre de ces populations qu'on dit autochtones. Hein, le terme est toujours difficile, ambigu. Et vous montrez ce travail dont peu de gens ont eu connaissance jusqu'à maintenant au Musée de l'Homme jusqu'au 2 janvier. Le fruit d'un travail secret, passionné, très engagé.
Secret, en quelque sorte, oui, parce que ça fait...
On n'a pas eu d'article, on n'a pas vu de choses dans la presse.
Non, j'ai pas voulu montrer ce travail, parce que je trouve que ce travail a du sens à partir du moment où on peut parler de ces peuples dans leur ensemble. Car en fin de compte, aujourd'hui, ils ont tous la même problématique climatique. Ils sont complètement... repoussés en dehors de leur terre d'origine et de naissance. Donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir aller à leur rencontre sur tous les continents pour après faire une analyse plus juste de leur situation.
Donc il n'était pas nécessaire de témoigner publiquement sur ce travail que vous avez mené grâce à quelques soutiens. C'est un engagement pour vous puisque vous aviez une carrière un peu toute tracée. Hein, du côté de la mode, une situation assez enviable, et vous partez là-dedans, et vous y engagez, vous trouvez les moyens, et vous allez sur le terrain.
Oui, en fait, tout tracé, rien n'est jamais tracé, parce que j'ai fait plein de petites choses différentes en dehors de la mode, mais c'est vrai que je suis passée par la mode, mais j'ai toujours été attirée par ces peuples, ça remonte à mon enfance, ça remonte à des lectures, à des films, et c'est vrai que avec le temps, j'ai réussi à aller vraiment là où ma passion m'appelait. Vers ces peuples.
Et cette attirance, vous pouvez l'expliquer ?
Écoutez, oui, peut-être à travers...
Est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec l'exotisme ?
Ah non, pas avec l'exotisme, mais avec des lectures. Par exemple, des livres de Robert Gessin sur les Inuits, des livres d'Alexandra Navinel, qui n'allait pas rencontrer les tribus, mais qui partait faire des voyages extraordinaires. Tout ça, ça a vraiment peuplé mon imaginaire et mon enfance. Et voilà, petit à petit, j'ai vu de plus en plus de films, je me suis intéressée de plus en plus à la chose et lu de plus en plus de livres. Et ça m'a passionnée.
Alors le fruit de ce travail, ça s'appelle tribu. Bon, c'est un terme difficile,
oui.
Parce que tribu, c'est un petit côté primitif et on sait bien qu'aujourd'hui, on ne veut absolument pas voir ces populations minoritaires, on va dire, dans leur propre pays, sous cet angle du primitif. Puisque alors, ce ne sont pas les populations qui sont à un stade antérieur de l'humanité.
Certainement
donc
pas.
C'est difficile de trouver le bon terme. Autochtone, c'est pas terrible non plus.
Alors écoutez, moi j'ai dit tribu, et je m'en suis justement dans le texte qui ouvre mon livre, je m'en excuse parce que vraiment je suis vraiment désolée, c'est pas le bon terme. Les aborigènes, ils préfèrent communauté, dans certains pays d'Afrique c'est ethnie, donc franchement c'est très compliqué. Ce sont des humains magnifiques, donc c'est vrai que j'ai pris un tout petit peu la facilité... En employant ce terme tribu pour parler d'eux d'une manière générale.
Et ça, ça va vous mener un petit peu partout dans le monde. Alors, je me tourne justement vers l'ethnologue, l'ethnobiologiste qui est Serge Bahuchet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous travaillez au sein du muséum et notamment au musée de l'homme qui en dépend. Vous avez travaillé sur les pygmées, on va en parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme terme pour ces petits peuples cernés en quelque sorte, et en très grande difficulté aujourd'hui, mais encore riche pour certains d'une culture relativement conservée.
Donc effectivement, la terminologie est complexe, elle est variable selon les pays où vivent ces populations, selon les pays qui parlent d'eux. On n'a pas la même terminologie en anglais, en français, il y a des sensibilités historiques diverses. Et Anne a très bien résumé les différents termes possibles. Donc...
Pour le scientifique, quel est le terme reconnu ?
Minorité, communauté, il n'y a pas de bon terme. Il y a un terme qui est utilisé en langage diplomatique dans le cadre de la Convention de la diversité biologique, qui est communauté autochtone et locale, et qui fait référence aux peuples qui sont minoritaires dans une communauté nationale englobante et qui vivent... prédominamment des ressources de la nature, qui dépendent des ressources de la nature pour leur vie, que ce soit en termes d'agriculture ou de chasse. Hein. Mais donc, cette terminologie est assez intéressante parce qu'elle relie aussi bien des populations du fin fond de la forêt que des communautés rurales dans les Alpes ou ailleurs, en fait, qui sont des gens qui ont leur tradition, leurs coutumes, leur langue, quelquefois, et leur choix de vie, autant qu'on les laisse choisir.
Alors, Vaughan de Vandière, justement, vous avez mis l'accent dans cette vaste enquête sur les savoir-faire et sur la main. C'est pour ça que j'ai eu envie d'appeler cette émission « main d'œuvre » au pluriel, parce que c'est une très bonne approche, finalement. Au départ, ça paraît un peu bizarre, mais c'est la relation au faire, et c'est aussi souvent la fierté de faire. Donc, comment vous est venue cette idée, et puis comment l'avez-vous fait accepter sur place, parce que il y a un travail de négociation aussi pour obtenir les photos, obtenir la confiance.
Oui, c'est sûr. Alors, tout d'abord, la main, faut le rappeler, c'est le premier outil de communication au monde. Et c'est le langage universel des voyageurs, si vous voulez. Moi, quand j'arrive chez un peuple comme les Maasai, etc., il y a une langue que je ne connais pas. Donc, bien sûr, j'ai des traducteurs. Mais déjà, tous les gestes dans l'affect, dans le sensible, se passent à travers la main. Donc, c'est très important de pouvoir portraitiser certaines de ces personnes que je rencontre à travers leurs mains. Tous ces peuples ont des savoir-faire ancestraux absolument extraordinaires. Et à chaque fois que je fais un portrait, mon portrait, en trois mots, je vous explique quand même, c'est un peu complexe. C'est un triptyque où je fais un petit portrait du visage, un portrait des mains en train de faire quelque chose. Bien évidemment, il n'y a aucune mise en scène. C'est en argentique, donc je ne peux pas voir ce que je fais. Donc, et jamais assez ça, hein, je vous avouerai. Et ensuite, troisième partie, c'est l'interview avec ces personnes que j'ai photographiées. Et je leur demande, qui êtes-vous à travers vos mains? Qu'est-ce qu'elles représentent pour vous? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers vos mains? Quelle est l'importance de vos mains aujourd'hui? Dans la caresse, dans le don, dans les savoir-faire, dans les... Et là, tout à coup, au départ, ils sont évidemment très étonnés. Mais très vite, une curiosité s'installe et très vite, ils deviennent très bavards. Et ils me racontent des choses absolument passionnantes.
Oui, alors il y a toute une série de témoignages des quatre coins du monde, puisque vous avez vraiment énormément panaché. Il n'y a aucun continent que vous avez laissé de côté. Mais justement, sur ces 350 millions, il y a une extrême diversité. Là, il y a peut-être 25 peuples que vous rencontrez, mais il aurait pu y en avoir 250.
Ah, mais oui.
La sélection se faisait comment ?
La sélection se faisait un tout petit peu... Au fil de mes rencontres, si vous voulez, parce que au début, mon tout premier voyage a été le Sénégal, dans les ethnies du sud du Sénégal, et je suis partie avec une femme d'un certain âge merveilleuse, qui s'appelle Marie-Paul Ferry et qui est ethnolinguiste. Et elle m'a emmenée chez les Bediques, chez les Bassari, si vous voulez, donc elle parle leur langue. Ça a été pour moi un véritable miracle. Donc ça a été mon premier voyage. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Je dois continuer à essayer de partir avec des gens, avec une personne qui les connaît très très bien, pour avoir cette confiance et cette approche relativement facile. Et après, évidemment, vous cherchez la bonne personne pour partir sur votre prochain voyage. Et c'est ainsi que les choses se font, en fait, tout simplement.
Voilà des flûtes qui nous emmènent en Colombie. Anne de Vandière, vous êtes allée en Amérique du Sud dans le cadre de cette vaste enquête dont on peut voir les photos au Musée de l'Homme en ce moment. Et vous êtes allée au Pérou. Alors il y a une partie de votre travail donc de photographe et d'enquêteuse qui se passe sur le lac Titicaca. Et c'est assez extraordinaire parce que on voit justement le maintien des pratiques de culture sur ces grands radeaux qui servent de jardin. Cette circulation sur le lac Titicaca, on voit les enjeux aussi de l'écologie, on voit la pollution. Et ceux que vous rencontrez sont jardiniers, musiciens ?
Ceux que je rencontre sur le lac Titicaca sont...
Pêcheurs ?
Sont pêcheurs, parce qu'en fait, ce sont... En fait, ils fabriquent des îles, si vous voulez. Ils habitent au cœur des
îles flottantes.
Voilà, ils habitent au cœur des roselières et avec des roseaux qu'ils entretiennent régulièrement, parce qu'évidemment, l'île a tendance à couler, donc ils coupent. Tous les 3-4 jours des nouveaux roseaux. Il y a des roseaux femelles, des roseaux mâles, enfin c'est très technique et ils maintiennent donc en surface cette île sur laquelle ils habitent. Et évidemment ce sont de grands pêcheurs, des tisseurs aussi, et ce sont des gens qui aujourd'hui malheureusement, heureusement, j'en sais rien, mais se tournent de plus en plus vers le tourisme parce que il y a de moins en moins de poissons. Il y a des problèmes, de problèmes climatiques évidemment. Le lac Titicaca est en train de baisser, donc petit à petit, ils craignent de se retrouver à sec. Mais comme ce sont des animistes, ils croient en des dieux et des déesses, la déesse du lac, etc. Ils pensent que ça ne leur arrivera jamais, mais malheureusement. Certains plus éclairés, leur disent que oui, il faut se retourner peut-être vers l'agriculture, mais ils refusent, ils croient.
Alors justement, un mot sur ce mariage du tourisme et de l'identité, puisque on sait très bien qu'il y a toute une branche du tourisme qui prospère les voyages chez les peuples autochtones. Ça donne des ressources économiques, ça fait aussi que tout d'un coup on perçoit sa propre culture, bon, comme un spectacle à offrir au monde extérieur. Et c'est très ambigu, en fin de compte, parce que ça devient, c'est plus des rapports d'échange, ça devient des rapports d'argent. On met son beau costume parce qu'on sait qu'il y a un groupe de touristes qui arrive. Alors, quelle attitude avez-vous par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes dans le malaise ? Parce que vos photos sont prises quand même en conditions, je dirais, entre guillemets, traditionnelles. Ouais. C'est-à-dire que des personnes qui, peut-être, au quotidien, vivent avec des t-shirts et des casquettes américaines sont plutôt habillées à la manière traditionnelle dans vos photos.
Non, ça jamais. Non. Alors là, au contraire, moi, j'ai essayé de fuir tout ce qui était plus ou moins touristique. Et dans mes photos, les photos que vous voyez où ils ont des habits traditionnels, c'est parce que ce jour-là, ils avaient envie ou ils portaient ces habits traditionnels. Jamais j'ai été demandé à...
Qui s'habille pour vous ?
Jamais, jamais. Ça, c'est totalement en dehors de ma...
C'est quoi ? C'est pas votre déontologie ?
Non, c'est pas du tout ma déontologie. Moi, je veux dire, la preuve, c'est que au Groenland, si vous voulez, j'ai photographié des hommes et des femmes en t-shirt. Je leur ai pas demandé d'aller mettre leurs pantalons en peau d'ours. Si vous voulez. Ça, il en est absolument pas question. Et puis, dans les endroits où je vais, si vous voulez... J'essaye de ne pas aller dans les endroits touristiques, entre guillemets. Je trace plus de routes, je vais plus loin, j'investigue. Et la personne, justement, avec laquelle je suis, et qui me guide en quelque sorte, m'emmène dans des endroits qui ne sont pas touristiques. Même si certains en vivent, parce que c'est vrai que c'est très ambigu. Parce qu'aujourd'hui, c'est une de leurs façons de gagner de l'argent. Mais c'est pas celle qui m'intéressait. Vraiment pas. Moi, j'allais avec eux dans leur village. Je plantais ma tente quand ils me l'autorisaient dans leur village. Et là, j'essayais de vivre avec eux leur quotidien, si vous voulez. Donc, surtout pas touristique, en tous les cas.
En tout cas, c'est aujourd'hui un type de marché, si vous voulez. Et c'est un marché télévisuel. Rendez-vous en terre inconnue prospère là-dessus. On a des gens, des people, qui se rendent auprès de peuples autochtones ou de tribus. Et on évacue soigneusement les problématiques qu'il y a autour. Si on va chez les nénettes, on ne dit pas qu'ils sont en train de se faire complètement enlever leurs terres par des compagnies minières et gazières. Donc, on découpe dans la réalité une espèce de rêve tribal ancestral à destination du tourisme ou de la télévision. Alors, là, quand même, il y a quelque chose d'assez insoutenable.
Totalement insoutenable. Là, ça, je vous l'accorde, c'est totalement insoutenable. En même temps, les gens qui font du tourisme et qui vont voir les gens un peu comme ça, d'une façon... presque obscène, si vous voulez. S'ils ont envie de s'informer un peu plus, ils le peuvent. L'avantage, s'il y en a un, de Jean Démission tout de même, c'est de montrer, et ce que je trouve, ce que fait Lopez d'une façon assez correcte tout de même, c'est de montrer que ces gens ont des vies absolument extraordinaires, qu'il faut les protéger, qu'il faut les laisser vivre sur leur terre de façon autonome, avec respect.
Mais les enjeux miniers et pétroliers qu'il y a autour sont totalement évacués.
Alors ça, c'est insupportable, et effectivement, c'est pas normal. Ça, c'est absolument pas normal, parce que moi, je vous dis, je suis pas ni politique ni quoi que ce soit, je vois bien la réalité des faits, et c'est vrai dans le livre, chaque chapitre sur chaque pays commence justement par... un engagement, une réalité qui dit que ces peuples sont en train d'être déportés parce qu'il y a un gisement de pétrole qui intéresse le gouvernement. Et ça, il faut que les gens le sachent, ça. C'est ce qui se passe, c'est monstrueux.
Et il faut d'autant plus peut-être qu'on le sache, que nous sommes complices. Parce que nos portefeuilles d'actions incluent des actions des sociétés pétrolières. Donc on se trouve... dans cette situation qu'on va regarder des populations en terre inconnue, entre guillemets, dans leur authenticité, entre guillemets, et en même temps, on détient des actions dans notre PEA, notre petit PEA, défiscalisé, qui sont des actions de sociétés qui détruisent ces villes-là.
Oui, enfin, moi, j'ai pas ce genre d'action, en tous les cas, ça c'est sûr. Mais c'est évident, mais ce que vous dites est évident, c'est totalement paradoxal. C'est vrai que certaines personnes qui défendent ces peuples, je sais pas, mais... En tous les cas, ce qu'il faut, c'est que ça parte d'un bon sentiment tout de même. Moi, je pense qu'il faut être quand même positif, parce que ces peuples sont en train de basculer dans la modernité, parfois de façon assez violente et injuste, mais il faut voir les choses de manière positive, et plus on en parle, mieux c'est. En finale, je pense.
France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Fraissé.
Alors ces enjeux concernant les peuples autochtones, parlons-en aussi avec vous Serge Bahuchet, ethnobiologiste. Donc vous dirigez le département Homme-Nature-Société au Musée de l'Homme qui accueille l'exposition d'Anne de Vandière. Et vous êtes un grand spécialiste des pygmées. Et les pygmées ont ce désavantage terrible d'être une petite population au cœur de la forêt répartie sur plusieurs nations. Donc c'est... une population pourchassée. Vous avez travaillé de très très nombreuses années sur les pygmées, et d'ailleurs vous contribuez à conserver leur langue, puisque c'est un travail de longue haleine. Il y a 10 dictionnaires, je crois, de la langue pygmée. Qu'en est-il de cette population-là ?
En réalité, c'est plusieurs populations. Les pygmées, c'est un nom que les Européens ont construit pour définir des petits groupes humains qui vivent dans la forêt d'Afrique centrale. Et maintenant, on sait que... J'avais écrit une fois un texte qui se terminait par « En réalité, les pygmées n'existent pas ». C'était un calembour. Mais en fait, il y a une petite vingtaine de groupes sociaux différents. Certains tout petits, de 300-400 personnes, au Gabon par exemple, au Cameroun. Et d'autres de plusieurs dizaines ou centaines de milliers. Donc c'est extrêmement contrasté. Chacune d'entre elles parle sa propre langue, sa propre culture. C'est, on pourrait dire, des ethnies à la... selon les formules africaines.
Elles n'ont pas le sentiment d'une unité entre elles.
Elles n'ont pas le sentiment d'une unité entre elles, et en général, elles ne se connaissent pas, parce qu'elles sont effectivement dispersées dans tous les pays de l'Afrique équatoriale. Donc, ce qui s'est passé depuis qu'on a commencé à travailler, il y a assez longtemps maintenant, en groupe au CNRS, sur une de ces ethnies, qui était celle de Centrafrique, qu'on appelle les Haka. Et le dictionnaire auquel vous référez, c'est la langue des Haka, que nous avons retranscrite à une dizaine de collègues de différents. Depuis, on a mieux compris les autres groupes, les relations qu'il y avait entre eux, en engageant plus de chercheurs, plus de disciplines, c'est-à-dire à la fois l'ethnologie ou l'ethnobiologie comme moi-même, la musicologie comme M. Arom, des linguistes, des généticiens, et en s'efforçant de comprendre la relation historique et moderne, sur le long terme, sur le court terme, qu'il y a entre ces communautés de chasseurs-cueilleurs ou d'anciens chasseurs-cueilleurs et tous leurs voisins agriculteurs avec qui partagent des traits culturels particuliers.
Alors avec quelle situation aujourd'hui, en quelques mots ?
Alors ils ont le... Disons qu'effectivement, depuis qu'on a commencé à travailler là-bas, le contexte a énormément changé. D'abord parce que maintenant la forêt est pénétrée de part en part. Les moyens techniques ont considérablement évolué. C'est très facile actuellement de faire des routes en Afrique. Donc le massif forestier qui était impénétrable il y a 50 ans ou 40 ans, maintenant est sillonné d'autoroutes. Et avec trois conséquences, même quatre. La première, c'est d'abord l'exploitation forestière, qui en elle-même n'est pas forcément profondément destructrice, parce qu'on exporte que très peu d'essence d'arbres. Par contre, ça fait des routes, qui permet à d'autres populations de rentrer, en particulier, et ça c'est un des fléaux modernes, les chasseurs de viande pour approvisionner les villes. Donc le problème de la viande de brousse est un problème énorme. Le deuxième élément, qui est beaucoup plus récent, mais qui est important et qui prend de l'ampleur, c'est la destruction de la forêt pour planter autre chose, par exemple du palmier à huile. Donc ça commence seulement en Afrique centrale par rapport à Bornéo, mais c'est croissant. Donc disparition du massif forestier. L'autre élément, c'est les mines. Donc c'est très localisé, mais quand ça arrive quelque part, c'est assez destructeur. Et le quatrième, paradoxalement, c'est la création des aires protégées, des parcs nationaux. C'est bien pour la forêt et c'est très mauvais pour les hommes, parce qu'ils n'ont plus le droit d'aller en forêt.
Donc ils sont colonisés chez eux par des gens pleins de bonnes intentions.
Certains sont pleins de bonnes intentions, d'autres ne le sont pas du tout, mais ils sont colonisés chez eux, oui. Et donc on voit des très très grosses modifications du mode de vie, avec aussi une très grande diversité de réactions à cela, puis qu'on va trouver des pygmées, appelons-les comme ça, qui vont s'efforcer de rester nomades, chasseurs-cueilleurs, peu ou prou, et puis d'autres qui vont résolument devenir sédentaires, agriculteurs, toujours avec de la chasse, mais en Afrique centrale, on utilise toujours la chasse pour se nourrir, même si on est agriculteur. Donc il y a très grande diversité de choix de vie.
Voilà, on aura compris que la situation n'est pas partout dramatique pour les peuples autochtones ou pour les communautés tribales que vous photographiez depuis de longues années, Anne de Vendière. Là, ce qu'on entend en ce moment, c'est un chant de jonglage inuit de la terre de Baffin. Il faut rappeler que les Inuits ont quand même obtenu un territoire autonome et qu'ils ont quand même aujourd'hui certains droits sur leur terre. Ils sont consultés. Bon, il reste encore beaucoup à faire. Alors, dans votre livre et dans l'exposition qu'on peut voir en ce moment au Musée de l'Homme, on le disait tout à l'heure, vous mettez l'accent sur la main. Et je voudrais signaler quelque chose qui m'a beaucoup émue parmi toutes ces mains qui sont à l'œuvre, mains de vanniers, forgerons, musiciens qui fait son instrument. C'est cette main battue de la petite pensionnaire, ex-pensionnaire aborigène d'Australie, cette ex-petite fille volée dont on battait la main. Quand la canne s'abattait sur nos mains, disait-elle, nous n'avions pas le droit de bouger, sinon nous recevions un autre coup.
Oui, c'était très émouvant. C'est une femme que j'ai rencontrée qui devait avoir une cinquantaine d'années, donc elle faisait partie de la génération des enfants volés, donc c'est ces enfants métis que... les Blancs en Australie prenaient, enfermaient et mettaient dans des orphelinats tenus par des sœurs.
Des sœurs particulièrement brutales,
d'après ce qu'elle... Des sœurs particulièrement brutales, oui, qui les rudoyaient, qui les obligeaient à se mettre toutes nues, à faire... Alors, bon, ce qu'elle me racontait, c'est qu'elle cherchait à se sauver et à retrouver sa maman, évidemment. Et à chaque fois, elle était rattrapée et c'était assez violent. Et ce qui était assez bouleversant, c'est qu'elle me disait qu'elle était l'une des rares à s'être mariée et à avoir eu des enfants. Parce que toute cette génération-là, soit ils sont tombés dans l'alcoolisme, soit ils sont suicidés. Il y a eu énormément de suicides. Et elle a eu des enfants, mais c'est une femme qui effectivement est marquée à vie, mais qui, une fois encore, positive son avenir, malgré tout.
Et qui vous a raconté donc son histoire. Vous l'avez photographiée dans ce livre qui s'appelle Tribu du Monde, avec l'exposition qu'on peut voir au Musée de l'Homme jusqu'au 2 janvier. Voilà. Hein? Et puis on voit aussi quelques vidéos tout à fait interpellantes, on va dire, de survival. Il y a le livre donc éponyme pour cette exposition aux éditions Intervalle. Et puis au Musée de l'Homme, Serge Bahuchet, vous proposez beaucoup de choses en ce moment. On a l'impression que le Musée de l'Homme s'avance pour aussi proclamer sa solidarité avec les peuples autochtones. On n'avait pas vu ça depuis quelques temps. Il y a une expo Franz Krachberg, oui. Un artiste très impliqué au Brésil.
Ben, en fait, cet ensemble de présentations correspond avec le un an de l'ouverture du Musée de l'Homme. Et dans le musée, nous expliquons la mondialisation et la surexploitation des ressources naturelles. Et nous avions un message positif en disant la mondialisation met les peuples en contact les uns avec les autres. Et c'est pas pour autant qu'on devient tous pareils, parce qu'on recrée tout le temps de la diversité. Nous montrons quelques éléments qui le montrent. Évidemment, c'est un message positif. Il y a l'inverse de ça, qui est de dire, à travers cette mondialisation, il y a aussi beaucoup de destruction de culture. Donc nous avions voulu, ce mois-ci, compléter notre message en montrant l'autre versant des choses, mais pas en le montrant sur l'angle de la perte, mais en le montrant sous l'angle de la réaction.
Et de la solidarité aussi.
Et de la solidarité.
Puisque là, vous avez fait venir donc deux objets phares, symboliques. Une pirogue donc qui vient du peuple quichua de Sarayaku. Et on les voit de temps en temps venir en France. Ils ont très bien su interpeller l'opinion pour se défendre contre les ingérences des compagnies pétrolières et minières. Oui. Hein, donc cet objet témoin. Et puis une fameuse parure que vous venez d'accueillir, qui vient, elle, de Nouvelle-Guinée.
Exactement. Et les deux correspondent aussi à le début de rôle que nous avons voulu jouer. L'année dernière, nous avions, au moment de la conférence des climats, la COP21, nous avions organisé au Musée de l'Homme une journée en accueillant une douzaine de représentants de communautés autochtones pour qu'ils exposent leurs réactions et leurs problèmes par rapport au changement climatique. Parmi ces invités, il y avait M. Mundia, qui est ce chef d'une ethnie de Nouvelle-Guinée qui s'appelle les Houli, et qui avait souhaité nous offrir sa parure de fête. Et à la COP21 était venue aussi une délégation des Sahariaku du Pérou, et qui était venue avec leur pirogue qui avait itinéré sur la Seine, qui a été présentée dans le pavillon de la conférence de climat, et ils nous ont offert, nous accueillons leur pirogue cette année, en témoignage de leur présence en France.
Merci Serge Bahuchet. Alors, affaire à suivre lors de la COP22 qui va se dérouler à Marrakech du 7 au 18 novembre. Voilà, c'est avec cette musique Uli, justement, que se termine Tout un monde, le magazine des cultures. À la prise de son, Pierre Monteil. À la réalisation, Vanessa Nadjar, Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Fraissez. Consultez donc notre page très nourrie par Claude Armand sur le site franceculture.fr, la page Tout un monde. Et sur France Culture, vous avez rendez-vous maintenant avec Vincent Charpentier. Bonsoir, Vincent.